Le monde au féminin. Féminin. Le monde au féminin. Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOAfrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Avec moi dans le studio, Christiane Ekambo, journaliste en RDC, experte en genre, fondatrice du journal en ligne journaldesnations.net, qui traite de l'information nationale et internationale, nationale particulièrement congolaise. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie, je vous remercie pour cette invitation.
Alors vous êtes journaliste depuis 25 ans dans la presse écrite, vous êtes accrédité depuis 10 ans auprès de la MONUSCO. Vous avez notamment été attachée de presse et conseillère en communication dans différents cabinets ministériels, droits humains, justice et au ministère de l'Industrie. Vous êtes membre de l'Union internationale de la presse francophone et d'African Media Initiative. Vous êtes mariée, mère de 6 enfants. Oui. Vous êtes mariée à Jean-Chrétien Ekambo, qui est l'ancien recteur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication et auteur de plusieurs ouvrages sur la communication. Alors, vous avez présenté notamment des travaux, plusieurs travaux sur la place de la femme dans les médias, des travaux aussi sur le respect des droits des femmes indigènes.
Oui, j'ai contribué à une étude sur les femmes indigènes qui est effectuée par l'Organisation des Nations Unies pour la population. Alors, cette organisation-là a demandé cette étude pour voir un peu les indigènes, plus particulièrement les femmes pygmées à Congo-Brazzaville. Okay. Alors, j'ai contribué à cette étude pour voir un peu leur évolution, leur intégration par rapport à la vie, à la maternité, comment est-ce qu'elles accèdent aux infrastructures qui sont modernes, alors qu'elles sont vraiment reculées,
c'est dans la forêt, part,
c'est ouais. Vraiment un monde à part, quoi. Mm-hmm. Et parfois, elles se disent qu'elles ne sont pas acceptées, mais il y a les Nations Unies qui font cet effort pour que ces femmes vivent normalement,
plus intégrées, quoi. Très intéressant comme sujet. Oui. Vous êtes souvent dans les forums sur la femme et le développement dans le monde, parce qu'on a tendance à lier un petit peu les deux maintenant, la femme et l'environnement.
Oui, c'est le constat qui a été fait, qu'on ne pouvait pas se développer si la femme ne venait pas avec. On doit faire tenir compte de tout ce que la femme fait pour qu'il y ait un développement. Parce que surtout dans notre monde qui est plus rural, il y a des zones où les femmes rurales interviennent plus. Elles participent en ce qui concerne même les développements économiques. Elles qui font marcher à commencer par l'agriculture. Donc elles font les champs, elles transportent tout ce qu'il y a comme produits vivriers agricoles qu'elles ont récoltés pour aller vendre. Et elles interviennent aussi au niveau du changement climatique. Qu'est-ce qu'elles comprennent pour ça? Donc il faut qu'il y ait des forums pour savoir un peu s'il y a un impact, une influence par rapport à tout ce que ces femmes font.
Je sens que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et vous avez aussi participé à des formations sur les médias au Ghana, au Kenya, au Zimbabwe, au Cameroun, au Burkina Faso, en Guinée, en Afrique du Sud. Voilà, c'est vraiment pour résumer votre bio, comme on dit. C'est beaucoup de travail. Madame Ekambo, l'évolution des femmes dans la presse en RDC ces 25 dernières années, qu'est-ce que vous auriez à dire? Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à cela?
Je veux dire que l'évolution, elle a été progressive, comme toute évolution. Elle a été progressive au début des années 80, quand moi j'ai commencé les études de journalisme. On n'avait que quelques femmes qui étaient au départ, on avait sélectionné des femmes qui étaient des présentatrices. Et ces femmes-là, par après, sont devenues des journalistes. Et c'était vraiment des coqueluches de la presse chez nous. Ouais. Après, on a eu quelques femmes qui ont étudié. Maintenant, on est parti un peu du fait que dans l'école de journalisme, la principale école qui est l'IFACIC, il y a plusieurs femmes qui sont inscrites. Il y a plus de femmes que d'hommes.
Ah bon?
On a à peu près 70% de femmes à Kinshasa qui étudient le journalisme.
Okay.
Mais maintenant, au sortir de l'école, quand on est embauché, on en trouve plus dans l'audiovisuel. Mais il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. L'écart est assez fort.
Ce qui veut dire qu'on a beaucoup de jeunes femmes qui se retrouvent au chômage de sortir de l'école.
Pas au chômage. Elles sont plus à la télé, mais elles n'ont pas des postes de décision. Elles sont plus reporters et tout. Elles n'ont pas accès à des postes de décision.
C'est dans la presse.
La disparition le 2 avril 2018 de Winnie Mandela, à 81 ans, a suscité de nombreux hommages. Le couple qu'elle a formé avec Nelson Mandela pendant 30 ans personnifiait le combat contre le régime raciste en Afrique du Sud. Leur photo main dans la main à la sortie de prison de Mandela en 1990, après 27 ans derrière les barreaux, symbolise leur victoire face à l'apartheid qui a été officiellement aboli en 1994. Mais la réputation de Winnie Mandela a été ternie par des dérapages politiques et des affaires de corruption. Le président Cyril Ramaphosa a salué sa mémoire pour sa voix du défi et de la résistance. Et Desmond Tutu a déclaré, je cite, « Son attitude de défi m'a profondément inspiré, ainsi que des générations de militants », rappelant qu'elle avait refusé de céder face au harcèlement perpétuel de sa famille par les forces de sécurité lorsque son mari était incarcéré. De même que pour l'Union africaine, Winnie Mandela a sacrifié sa vie pour la liberté en Afrique du Sud et les femmes du monde entier. Pour revenir sur son héritage, Jacques Aristide s'est entretenu avec le professeur Kofi Kwaku de l'université du Wits à Johannesburg.
C'est une figure illustre qui a vraiment combattu contre l'apartheid. Elle a subi des pressions, des traumatismes, des dépressions et de l'oppression et tout ça. Donc c'est un symbole vraiment très important pour, pas seulement l'ANC, mais la libération de l'Afrique du Sud, et surtout en Afrique australe, où cette libération, ce que les gens appellent en anglais le struggle, c'est-à-dire la lutte pour l'émancipation, s'est passée, elle reste un symbole très important.
Mais elle était controversée. 1986, elle appelle à libérer le pays avec des allumettes. 1992, elle est accusée de corruption et mauvaise gestion. Elle est démise de ses fonctions à l'ANC. Ces polémiques... ont-elles terni son image de militante aux côtés de Nelson Mandela ?
Non, pas du tout. Pour ses supporters, elle reste toujours un symbole très important. Par exemple, vous avez ici Julius Malema, un jeune, le jeune cacique IFF, un nouveau parti, qui est très jeune, qui est aussi très fort dans les questions de liberté économique. En fait, elle était, elle restera toujours le symbole et la parraine de Julius Malema. Donc elle a toujours beaucoup de gens qui la supportent. C'est vrai que son image a été un peu ternie, mais elle reste toujours très 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 supportée en Afrique du Sud.
C'était le professeur Kofi Kwaku, il était joint à Johannesburg.
Madame Ekambo, est-ce que vous avez connu, est-ce que vous connaissez encore le sexisme, la discrimination basée sur le genre dans le monde de la presse ? Est-ce que cela, c'est quelque chose qui vous a frappé ou est-ce que c'est vraiment très très léger ?
Je crois que ça existe partout, hein. Mais il faut dire que les femmes quand même font tout pour que ça ne prenne pas place, quoi.
Elles se défendent,
elles font tout pour qu'elles soient compétentes, qu'elles soient des vraies journalistes.
Et alors, on est moins victime du sexisme si on est plus compétent, c'est ça ?
Les phénomènes existent, mais il faut savoir comment les dénoncer. Surtout, c'est ça. Hein,
est-ce qu'on commence à le dénoncer en Afrique, ce type de comportement ? Parce que je me souviens d'avoir discuté avec une journaliste également sénégalaise qui disait que c'était pas ça encore. Vous savez, avec toute cette vague de dénonciation là aux États-Unis, en Europe, en France, etc., que c'était pas aussi facile pour les Africaines de dénoncer cela. Est-ce que c'est vrai ?
Ça, c'est vrai. Ça ne devient pas ici, hein, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, en France et tout, c'est comme si c'était la mode aussi. Hein. Il faut en parler, il faut. Mais chez nous, déjà qu'être une femme journaliste, ça donne une mauvaise connotation.
Ah bon ?
Et ça fait, oui, ça donne une mauvaise connotation. On a une étiquette des femmes qui sont, entre guillemets, trop indépendantes, des femmes qui sont vraiment libres.
C'est hein, tout contraire à la culture traditionnelle.
Oui, c'est tout contraire à la culture.
Non, c'est pas encore ça. Hein.
C'est pas encore ça. Et alors, en plus d'avoir un métier où on se dit que vous êtes déjà trop exposées, les femmes, se retiennent quand même de dénoncer tout ce qui se passe dedans. C'est ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas encore, ça c'est vrai. On ne le fait pas encore. Il y a des harcèlements, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur.
Mais vous-même, est-ce que vous avez été victime de cette forme de harcèlement, par exemple? Est-ce que ça vous est arrivé ou pas du tout?
Je pense que ça arrive dans le milieu du travail quand même. Hein. Ça arrive, par exemple, vous êtes conseillère en communication d'une grande personnalité et vous êtes exposée à beaucoup de choses. Mais je crois qu'à partir du moment où vous faites valoir votre travail, vous faites valoir ce que vous devez faire, je crois qu'il y a quand même des barrières, il y a quand même des limites, quoi. On se fait respecter parce que dans le monde de la presse, chez nous, par exemple, on sait que le ministre y passe. Mais le journaliste reste. Moi, j'ai entendu une fois Colette Braeckman, on était à Conakry, Guinée-Conakry, qui a dit ça. Je dis oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai, on vous fait des avances, vous dites non, l'autre il va partir.
Les ministres vous font des avances.
Pas nécessairement les ministres, on dit dans le milieu du travail, ça existe. C'est dans tous les métiers, quoi.
Bien sûr, oui.
Oui, mais pour nous, on a cet avantage de rester journaliste. C'est un travail, souvent on est des indépendants, même si on travaillait au niveau étatique, mais on a toujours l'occasion de s'imposer.
Parole de femme.
La pratique du troc est toujours d'actualité dans le commerce au Togo. Pour le vivre, il faut se rendre à Togoville, au bord du lac Togo. Notre correspondante Kay Lawson est allée à la rencontre des femmes qui échangent des marchandises pour le plus grand bien de la famille sans débourser un sou.
Tous les mercredis, ces bonnes dames ne ratent pour rien au monde l'occasion de se rendre de l'autre côté de la rive. Après environ un quart d'heure de traversée, nous voilà à Togoville où un marché de troc attire l'attention et connaît une forte affluence. On se croirait au Moyen-Âge. Et pourtant, cette pratique est d'actualité dans cette ancienne capitale du Togo, située à une soixantaine de kilomètres à l'est de Lomé. Du maïs pour du poisson, de l'amidon de manioc pour des légumes, ou encore des produits agricoles, équipements artisanaux et services. Bref, sur ce marché, tout s'échange. J'ai échangé mes poissons contre du maïs et de l'amidon de manioc. Le maïs, je vais le moudre et le vendre. C'est ce que je fais comme commerce. Quand je viens au marché, je fais mes emplettes pour toute la semaine sans sortir de l'argent. Je suis venue au marché avec du maïs. J'ai pris du poisson, des crabes, des légumes, du charbon et de l'huile rouge. Avec tout cela, je peux tenir jusqu'au prochain jour du marché. Aujourd'hui, Dame Lakolé a envie d'une bonne salade. Il ne manquait que la carotte. Je suis venu prendre de la carotte. Pour l'échange, j'ai apporté du maïs. Je fais le tour pour prendre tous les ingrédients qui entrent dans la préparation d'une salade. Loin d'être une pratique qui frise la raillerie, à Togoville, le troc n'a jamais fait ses adieux. Une richesse inestimable qui démystifie la monnaie assure les commerçants. C'est une pratique ancestrale qui nous sied bien. Car nous avons les produits, mais pas de l'argent. Avec le troc, on ne sent plus le poids de la monnaie. Tu peux vivre normalement. Le troc nous aide beaucoup. Même si tu n'as pas d'argent, avec les produits de ta ferme, que ce soit du maïs ou des produits dérivés du manioc, tu peux les échanger contre tout ce que tu veux. En fin de journée, chacun reprend son chemin avec le sentiment d'avoir réalisé de bonnes affaires, sans avoir à dépenser un seul rond. Kay Lawson, de retour de Togoville pour La Voix de l'Amérique.
J'aime beaucoup ce reportage de Kay Lawson qui nous fait vraiment des reportages formidables. Le troc, hein, l'échange. Très rapidement, avant qu'on continue sur notre sujet, le troc, on le connaît, j'imagine, en RDC. Vous avez des exemples comme ça de femmes aussi sur les marchés qui échangent leurs marchandises.
C'est dans l'arrière-pays, mais ce n'est pas propre aux femmes. Ce sont des échanges qui se font Par exemple, à l'Équateur, moi je sais qu'à l'Équateur, au fin fond, hein, dans des coins reculés où les pêcheurs ont fait des trocs avec les pêcheurs, vous amenez, les femmes amènent de Kinshasa des habits de seconde main. Et alors là-bas, ils vont échanger ou bien par exemple avec des hameçons, des filets, hein, qu'elles ramènent là-bas. D'accord, les pêcheurs en ont besoin pour pêcher. Il lui faut un filet, il faut ceci. Alors vous donnez le filet, ils vous donnent du poisson et ils équilibrent un peu comme ça, quoi. Mais dans des marchés, les trocs n'existent plus vraiment. C'est seulement dans les parties vraiment reculées, dans la, ben, je peux pas dire dans la forêt, dans au fin fond là-bas. Et ça se fait pour avoir du poisson fumé. On peut vous le faire. Vous amenez, par exemple, pour le poisson salé, vous amenez le sel de la ville. Et puis, on vous sèche le poisson.
Oui, ça formidable. On parle de votre journal rapidement. Comment est venue l'idée? Et je veux savoir aussi si vous embauchez des femmes.
Oui, bon, l'idée m'est venue parce qu'à un moment donné, on se dit il faut être patron de soi-même ou bien il faut créer quelque chose qui vous appartienne, quoi. C'est un peu avec cette vision d'entrepreneuriat féminin et tout. Je me suis dit, bon, c'est que je savais. J'ai fait longtemps dans la presse écrite. En 2015, j'ai eu cette idée de faire un journal en ligne, mais j'avais le webmaster qui m'a fait le montage de ces sites. À un moment donné, il commençait un peu à me harceler pour dire que on devait faire par égal et que c'était à lui aussi, alors que lui, il n'était pas dans le métier. Alors j'ai dû un peu le quitter, l'abandonner. Et je repris. Et là, vraiment, c'est un autre tournant parce que je travaille avec une équipe de journalistes. J'ai trois journalistes, des hommes, et puis deux jeunes dames à Kinshasa. J'aimerais avoir
plus de femmes,
mais comme on est encore une jeune entreprise, et que là...
Donc vous êtes six en tout, c'est ça?
On est six.
C'est bien.
On est six à Kinshasa et j'ai deux journalistes à l'intérieur du pays.
Si je ne pouvais.
La vie étant devenue difficile dans beaucoup de localités du Burundi, des jeunes du quartier Jabé à Bujumbura se sont organisés pour s'entraider. Notre correspondant Christophe Nkurunziza est allé à la rencontre de cette jeunesse prévoyante qui s'organise faute d'aide de l'État au plan socio-économique.
À Bagamba, quartier 2, Jabé, dans la zone de Biza, en commune de Mukaza, c'est l'endroit où presque une cinquantaine de jeunes ont eu l'idée de s'entraider au lieu de perdre leur temps dans des discussions stérile basé sur le genre et l'ethnie. Augustin Nivaïm Douchet, c'est lui qui a eu cette idée, nous parle de leur cotisation.
Premièrement, si une personne a eu un problème de malheur, quoi, c'est prioritaire, oui. Pour une personne qui a perdu une personne, on fait une cotisation de 10 000 francs par personne. Mais celui qui a eu un nouveau-né, le mariage, c'est 5 000 francs. On va faire des activités, on va chercher les jeunes qui sont dans le groupe, qui n'ont pas de travail. Ils vont gérer ce qu'on a récolté pendant les cotisations.
Tout cela pour essayer de vous entraider mutuellement entre les jeunes.
Bien sûr, bien sûr.
Parmi la centaine des cotisants aujourd'hui, certains ont déjà bénéficié de l'entraide. Égide Irakoze a dernièrement perdu un membre important de sa famille. Témoignage.
J'ai perdu un oncle qui m'a élevé. J'étais orphelin. Cet oncle qui m'a payé les frais d'eau minérale et les frais de logement. Et voilà, il vient de rendre son âme. Je vois une association qui vient à peine de naître, qui m'assiste le jour même de son décès, le jour de l'enterrement, le jour du lever de deuil. Ils venaient tous chez nous pour nous soutenir. Je les ai vus trop nombreux avec des enveloppes. C'est vraiment extraordinaire.
Même dans les moments de bonheur comme les mariages, cette association qui mûre est toujours présente pour rendre la fête inoubliable. Tous les samedis, ces jeunes font une marche qui les conduit sur les hauteurs surplombant la capitale en chantant. Il est à rappeler aussi que si un des membres ne cotise pas pendant 3 mois, il est automatiquement radié. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait.
Vous Vous écoutez Le Monde au féminin avec Christiane Ekambo, journaliste de la RDC, République démocratique du Congo. Dans votre journal, Christiane, vous avez des rubriques intéressantes, je trouve, rubrique économie, humanitaire, femmes et développement, société, environnement, religion. Et vous faites aussi, vous reprenez en fait des articles qui ont été écrits par d'autres médias, c'est cela ?
Oui, c'est ce qu'on fait, puisque on ne sait pas, comment dire, être partout à la fois. Donc, il y a au niveau, pour faire la rubrique internationale, on va reprendre des articles d'autres presses, mais tout en signalant, on le garde comme tel. On le garde comme tel avec la signature. Comme ça, au moins, et s'il y a quelqu'un, puisque nous sommes en ligne, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas aller voir un peu d'autres informations ailleurs, et chez nous, dès qu'il clique, on a toute cette panoplie d'informations, quoi, au niveau national, au niveau international. On brosse un peu au niveau de l'Afrique. Et surtout avec les médias sociaux aujourd'hui. Donc on sait même contacter quelqu'un directement. J'ai fait par exemple un reportage sur la manifestation au Sénégal, à Dakar. J'ai trouvé vraiment très facile pour voir un peu la personne qui a coordonné cet événement. C'était après les événements des messes des catholiques. Il y a eu cette chaîne des manifestations un peu partout, en Afrique, à Rome. Et pour faire ce reportage-là, j'ai eu sur Messenger les coordonnateurs de l'événement et on a échangé. Donc j'avais des nouvelles fraîches et c'est un peu ça la magie. Avec
les... Et vous êtes spécialisée dans quel domaine en particulier? C'est justement les questions du genre, les questions de l'environnement?
Moi je suis plus dans les questions du genre et puis au niveau des Nations Unies, donc tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est qui concerne la paix, l'environnement. Donc c'est plus ça, comme j'ai fait longtemps comme journaliste accrédité à la MONUSCO, quoi. C'est un peu ça.
Vous avez lu tous les ouvrages de votre époux?
J'essaie de lire le paradigme sur
l'information. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce qu'il a pu écrire?
C'est surtout le livre sur l'histoire de la presse, quoi. Comment est-ce qu'il fait...
En RDC,
le Oui, comment est-ce qu'il fait le rapprochement entre l'histoire du Congo et la presse? Comment est-ce que la presse a participé à cette indépendance jusqu'à aujourd'hui? Ça, je trouve un peu génial. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir. Il est dans
c'est un intellectuel, bien sûr.
Oui, et c'est ce qui m'a stimulée aussi.
Christiane Ekambo, pour terminer cette émission, je crois que vous avez dit, il me semble, dans le potentiel, un jour une femme sera hissée à la tête de la RDC. Moi, j'y crois vraiment aussi. Hein. Franchement, je ne sais pas demain, mais il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas un jour.
C'est vrai, je l'ai dit comme ça. Je le dis parce que j'y croyais, j'y crois.
Vous y croyez toujours, j'espère.
Je crois toujours, mais je me dis qu'on doit continuer à se battre. Et peut-être trouver aussi des astuces, quoi. Parce que ce que je remarque, c'est les hommes, ils s'organisent, ils se mettent en cachette, ils parlent en cachette pour voir un peu, pour avoir un poste. Ils se disent, ils mettent des stratégies en place.
Il y a aussi de la solidarité masculine dans cette bagarre, on va dire, politique. Il y a aussi la solidarité.
Il y a la solidarité.
Et les femmes devraient faire de la même manière.
On devrait faire la même chose. Parce qu'à un moment donné, on oublie pourquoi on est là, quoi. Hein, parfois, c'est ça aussi. Dans de grands forums, on oublie pourquoi on est là. On oublie que c'est pour avoir un poste. Et parfois, on commence à se tirer entre femmes. Et c'est un peu ça.
Christiane Ekambo, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Le Monde au féminin. Un grand merci à Sims Loumami et à Wagner Robert à la production et bien sûr le plus grand des merci comme d'habitude à nos chères auditrices, à nos chers auditeurs. À très bientôt, au revoir.
En tout cas Nathalie, c'est moi qui te remercie. Vraiment, j'étais très ravie pour cette invitation.
C'était un plaisir. Arrête.